Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier et retour sur la semaine politique québécoise et canadienne. Nous avons choisi quatre sujets et on va voir si on a le temps de les couvrir. Les révélations sur les intentions de Trudeau père d'affamer économiquement le Québec sous René Lévesque. Ensuite, la Cour dit que la page de dénonciation dit son nom sur les médias sociaux ne peut rester anonyme. Troisièmement, Benoît Charrette, nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et pour finir, Québec solidaire veut hausser les impôts de 50%. On parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick.
Bonjour Jean-Philippe.
Avez-vous signé la pétition de la Société Saint-Jean-Baptiste pour débaptiser l'aéroport Trudeau?
Ah, que certains ont déjà rebaptisé l'aéropette. Je me souviens d'avoir vu ça sur les réseaux. Alors moi, je serais plutôt... Si on a une pétition sur celle-là, je serais participant. Non, je vous avoue, non, j'ai pas participé, mais je le pourrais. C'est une forme de paresse de ma part. En même temps, bon, quand on dénonce à gauche et à droite ceux qui veulent déboulonner les statuts, changer les noms, changer les mots, changer les textes...
Oui, ben alors, oui.
Mais cela dit, je dis ceci un sourire en coin parce que j'ai entendu une critique de cette nature ces derniers jours. Effectivement, des gens ont dit, ben oui, mais comment pouvez-vous vouloir changer le nom d'un aéroport quand vous passez votre temps à critiquer la nouvelle gauche qui veut changer des mots et des noms partout? Mais enfin, c'est pas la même chose quand même, hein? Soyons sérieux.
Alors...
on ne pas les noms des aéroports à tous les jours. Les gens passent pas leur temps à demander des choses comme ça quand ils ne sont pas de cette nouvelle gauche qui, elle, fait de cette méthode vraiment un mode de vie. Il faut quand même...
Ah oui, c'est leur apostolat agressif, évidemment. Oui. Maintenant, beaucoup de... on parle de ces révélations, c'est un ancien ambassadeur états-unien, je pense, ou... enfin, bref, lui est mort, Trudeau est mort. La plupart des gens concernés par ce dossier d'intervention, d'intervention de Trudeau père dans les affaires intérieures québécoises, tout le monde est mort, sauf, je pense, quelqu'un comme Marc Lalonde. Je veux dire, on n'a qu'un seul témoignage, quelques échanges, quelques phrases. Est-ce que tout cela fait une preuve ou pas?
Ben oui, c'est une bonne question. Alors, évidemment, on pourrait presque dire que c'est du oui-dire. Vous l'avez bien dit, il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis, mais c'est cet ambassadeur qui, dans une communication officielle à son administration, annonçait que le premier ministre Trudeau avait cette intention, voulait demander aux grandes entreprises de mettre à mal l'économie québécoise pour punir les Québécois d'avoir voté pour le Parti québécois de René Lévesque à l'époque. Alors, c'est quand même pas non plus le voisin du beau-frère d'un journaliste qui a connu quelqu'un qui avait vu passer quelque chose. Hein? C'est une communication officielle. On peut tout de même se fier dans une certaine mesure à ça, d'autant plus que ça, on peut pas dire que c'est totalement discordant par rapport à la personnalité de M. Trudeau. On connaît son opposition viscérale à l'affirmationnisme québécois, au nationalisme de façon plus large aussi. Et, cet épisode-là nous rappelle le principe de la raison d'État, qui est un principe en vertu duquel toutes les mesures, toutes les méthodes, tous les moyens sont bons, y compris ceux qui coupent court à la démocratie ou à l'éthique ou à la morale, lorsque vient le temps de défendre l'intégrité territoriale d'un État donné.
Pensez-vous au scandale des commandites?
Exactement, Jean Chrétien, vous avez bien énoncé ce principe dans les audiences devant le juge Gomery lors du scandale des commandites. Il avait dit, vous savez, on n'en était quand même pas à un ou deux accros près quand nous étions en guerre, disait-il. C'était aussi le propos de son subalterne dont j'oublie le nom, qui était impliqué évidemment bien davantage de façon concrète dans les malversations entourant dans le fameux scandale des commandites. Et tous disaient la même chose. Ils disaient, c'était M. Guité, si je ne m'abuse. Tous disaient, ben oui, mais là, franchement, on n'était pas pour se mettre à respecter les lois et les règles. Il s'agissait de sauver le Canada. Alors, on peut penser que M. Trudeau a au minimum, dans un moment de colère, disons, voulu faire une telle chose. Et comme on peut le penser, ben, il est assez étonnant, je trouve, que l'actualité soit restée relativement peu agitée sur ce sujet-là ces derniers jours. Quand on apprend qu'un chef d'État d'un autre pays, par exemple, a voulu s'en prendre à sa population. On trouve ça épouvantable et on en fait des gorges chaudes. Voici que le premier ministre du Canada aurait eu de tels desseins. Et ma foi, on est resté plutôt calme, sauf peut-être dans les médias de Québécois, dont on connaît évidemment maintenant l'orientation idéologique de leur patron, à tout le moins.
C'est pas Trudeau père qui parlait de péché contre l'esprit quand on votait oui pour le référendum de 80. Je veux dire, ça donne vraiment la mesure du potentiel de cet homme-là, non, ou de son régime.
Oui, bien sûr.
Péché contre l'esprit, c'est quand même ça va loin, ça.
C'est aussi l'homme de la loi des mesures de guerre en 70, voilà. Que d'aucuns ont jugé. Abusive et de loin. Enfin, bon, on laissera l'histoire et les gens apprécier, mais bon, alors c'est clairement c'est quelqu'un qui ne lésinait pas sur les moyens pour mettre au pas, neutraliser, si on veut, les volontés, les velléités indépendantistes du Québec.
Page de dénonciation sur les médias sociaux dit son nom et les administratrices voulaient rester anonymes. Quelqu'un les a forcés, enfin c'est allé en cour et la cour a dit qu'on ne peut pas dénoncer tout en étant anonyme.
Oui, alors ça a fait beaucoup, beaucoup jaser cet été, ces pages. Il n'y avait pas que celle-là d'ailleurs, hein, il y en avait d'autres.
Non, c'était devenu un tic.
Celle-là s'intitulait « Dit son nom ». Alors, c'est une page sur laquelle on pouvait lire une multitude de témoignages anonymes mettant en cause des individus qui, eux, pour le coup, étaient bien identifiés.
Bien identifiés, oui.
Évidemment, des individus, des hommes, pour la plupart, qui ne pouvaient pas se défendre, forcément, puisque, d'abord, d'une part, on ne sait pas qui parle, et d'autre part, c'est sa parole contre... Bref, c'est une forme de remise en question de la présomption d'innocence, cette façon-là de se faire une sorte de justice parallèle. Ce jeune homme, qui se nomme Jean-François Marquis, et se trouvait sur la liste des agresseurs allégués sur cette page, et il a décidé de poursuivre les administratrices et la juge, la Cour supérieure, parce que c'est une femme, et je le mentionne, je ne le ferai pas normalement, mais puisque c'est justement dans la méthode et dans les principes de ces activistes, des activistes qui opèrent ce genre de page, de dire que en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous n'avez pas la même légitimité pour traiter d'un sujet qui touche les uns ou les autres.
C'est du wokisme avant la lettre, non?
C'est même pas avant la lettre, c'est le mouvement woke, et je vais vous donner quelques informations, Jean-Philippe, en primeur à nos auditeurs là-dessus.
Allez-y.
Dans un instant, mais je termine ma phrase. Donc, Jean-François Marquis, oui, c'est ça, la juge devait d'abord, là, avant de se prononcer plus avant, dire si les autrices, puisque je parle à la mode maintenant, de cette page, peuvent rester anonymes, pouvaient rester anonymes. Elle a décidé que non. Et elle a décidé également que M. Marquis pouvait être informé, avait le droit d'être informé de l'identité des personnes qui l'accusent et des faits plus précis, des dates, etc., qui lui sont reprochées. Sans quoi, dit la juge, c'est un déni, justement, du droit à un procès juste et équitable et à la présomption d'innocence. Alors, pour revenir aux
révélations,
c'est une gifle au wokisme, mais figurez-vous, Jean-Philippe, que ce marquis est un jeune homme que j'ai vu observer sur les réseaux sociaux, qui est tout à fait lui-même dans cette mouvance de personnes qui prononcent des interdits et qui lynchent et qui chantent les vertus du wokisme sur les réseaux sociaux. Et c'était d'ailleurs l'ami de cœur, dit-on, de Camille Robert, cette jeune activiste aussi, féministe, bien en vue, qui avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a succédé à Gabrielle Nadeau-Dubois dans une des associations étudiantes dont j'oublie l'acronyme compliqué, là. Je pense que c'était la CLASSE ou l'AC ou quelque chose comme ça.
Peu importe,
et c'est elle également qui avait dit, lors de l'hommage ou lors du décès de Jacques Parizeau, des mots absolument abominables sur Parizeau parce que, évidemment, c'était un homme et c'était patriarcal et vous voyez un peu. Alors, bref, c'est la révolution qui mange ses enfants. Encore une fois, ce sont des tenants du wokisme entre eux ici qui sont en train de s'entre-bouffer. Mais probablement pour la plus grande satisfaction d'autres hommes qui ont été pris à partie par ces pages, évidemment, et pas toujours On s'en doute, là, c'est pas toujours exact ce qui a été dit là-dessus.
C'est peut-être aussi un signe d'un revirement de situation, d'un changement de vent. C'est d'ailleurs curieux, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ultra-féministe, mais carrément à la caricature, parce qu'ils font encore de la surenchère sur ce discours victimaire, et c'est eux qui se font ensuite torpiller par celles qu'ils défendent. C'est, je sais pas quel adjectif utiliser pour décrire cela. On va revenir à ces questions-là, parce qu'elles sont loin d'être closes. Nick Payne, il nous reste quand même un peu moins de 10 minutes. Je vous entends mal. Qu'est-ce que vous dites?
J'allais vous dire, je ne veux surtout pas, en terminant, banaliser les violences faites aux femmes et les agressions.
Non, évidemment.
Il ne faut pas du tout de ça dont on parlait, j'espère avoir été clair.
Mais pas du tout. Et d'ailleurs, il faudrait aussi parler de la violence des femmes envers les hommes aussi, parce que ça, on n'en parle jamais. L'égalité des sexes se passe dans les deux sens.
Oui, j'avais du moins dans la petite violence ordinaire, il est assez documenté que il est tout à fait documenté que les crimes violents, évidemment, là, les femmes en sont victimes par des hommes trois ou quatre fois plus. Enfin, ce sont les deux tiers ou les trois quarts là, de ces crimes-là, où je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est abominablement dominé par les hommes. Ce qui est plus égal, semble-t-il, ce sont les claques au visage, les lancers d'assiettes et autres.
et les couteaux tirés aussi, hein, c'est pas le couteau n'a pas un genre. Dites-moi une chose, qui y a d'autre? Il y a une autre nouvelle, oui, Benoît Charette est le nouveau ministre, donc, un ministre responsable de la lutte contre le racisme, aussitôt nommé, aussitôt décrié.
Ben oui, évidemment. Alors, le comité sur le racisme instauré par François Legault avait émis cette recommandation, celle de nommer un ministre responsable de ce dossier. C'est donc chose faite. On aurait pu saluer cette avancée chez ceux qui y tenaient beaucoup, mais peut-être, au fond, qu'on sait que tout ça est relativement symbolique. Hein? On a le ministre des aînés, Jean-Philippe, au Québec. Je peux pas dire qu'elle a, qu'elle est capable d'obtenir des résultats sonnants et trébuchants, pour le dire comme ça.
Alors, enfin, très trébuchant plutôt.
Oui, c'est plutôt trébuchant. Et oui. Pour ce qui est d'un phénomène social profond comme le racisme, il faudrait quand même pas penser que M. Charette tout seul va changer grand chose là-dessus. Je rejoins un peu les réactions mitigées de plusieurs. Cependant, évidemment, on a dit que M. Charette n'était pas la bonne personne pour occuper ce poste du fait de sa couleur de peau.
Donc, encore une fois, on essentialise. Est-ce que là, vous reprocheriez qu'on essentialise parce que, puisqu'il est blanc, il ne peut pas s'occuper de racisme, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a été victime d'eux, obligatoirement, à supposer que les blancs ne sont jamais victimes de racisme?
Ben, en effet, puis ensuite, il faut prendre la juste mesure des choses. Je comprends que si nous étions dans une société comme celle des États-Unis d'Amérique, par exemple, la population, les minorités visibles et les gens à la peau noire forment une proportion fort importante de la population, peut-être le luxe de se dire, prenons quelqu'un qui vient de ces communautés. Maintenant, au Québec, il y en a moins. Il y en a dans le gouvernement Legault, et on peut penser je pense raisonnablement que, pour ne pas les nommer, Mme Giraud et M. Carman, on peut penser qu'ils ont décliné la demande du premier ministre aussi. Ça arrive, ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'être le noir de service qui devient le porte-parole des Noirs à tout coup. C'est un peu. C'est là que logeait Barack Obama, par exemple, aussi. Hein? Il s'est toujours montré très réticent à devenir le porte-parole des gens qui avaient la même couleur de peau que lui, parce qu'il voulait être un homme politique à part entière qui faisait autre chose que s'occuper d'une seule communauté. Bon, bref. Voyez-vous, on est dans une situation où il y a infiniment plus de blancs à portée de main pour occuper ce poste que de non-blancs. Alors, il me semble qu'on fait un peu un scandale pour rien là-dessus. Notez que le ministre des Services aux Premières Nations, aux Autochtones, au fédéral, est un bon blanc, bien blanc aussi, voyez. Alors bon, est-ce qu'on fait pire au Québec là-dessus? Il semble que non, en tout cas.
Mais quand ça vient du Québec, est-ce qu'on tape pas davantage dessus? Le bobo est plus apparent au Québec, au fédéral ou ailleurs au Canada, est-ce qu'on ne tape pas davantage sur le Québec? C'est une question que je vous pose, moi je n'ai pas de conclusion.
Ben, c'est-à-dire que c'est historique depuis longtemps. La majorité canadienne française du Québec, comme d'ailleurs d'autres peuples dominés, mis sous tutelle ou sous domination politique, colonisés. On les accuse toujours de repli sur soi, d'ethnocentrisme. Et là, évidemment, ici, cette vieille habitude est renouvelée là du fait de cette nouvelle gauche à l'américaine qui est bien préoccupée par la diversité. Elle forme une espèce d'alliance avec le discours colonialiste canadien en s'empressant toujours de très rapidement conclure au racisme et à l'ethnocentrisme quand on parle du Québec français. Ça c'est vrai, effectivement.
Tout à fait. On va terminer avec Québec solidaire qui veut hausser les impôts de 50%. C'est merveilleux.
Oui. En tout cas, ceux des plus riches. Mais vous avez des gens...
Oui, évidemment, oui.
Oui, Francis Val dans la presse qui démonte cet argument avec des chiffres. Alors, je ne suis pas économiste, je ne veux pas trop aller glisser sur ce terrain, mais il semble que Québec solidaire se trompe et qu'il faudrait plutôt, pour dégager les surplus que Québec solidaire espère dégager par une telle mesure, augmenter les impôts des couches de la population en question de 86%. Donc, il faudrait voir qui a raison. Mais ce qui est intéressant dans cette... Alors, c'est un document publié par Québec solidaire ces derniers jours qui propose des mesures pour l'après-crise, hein, pour la sortie, l'après-COVID. Et dans ce document, au fond, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, il y a l'ADN de Québec solidaire, des embauches massives aussi dans les postes, notamment pour les services de soins à domicile aux personnes âgées, dans le au gouvernement de façon plus large. Si on peut pas être contre la tarte aux pommes non plus, hein, on veut bien maintenant combien ça coûte.
Mais il faut mettre des pommes dedans, c'est ça le problème. Il n'y a pas qu'une abaisse, il y a aussi l'appareil, la mixture, les tranches de pommes.
Oui, en effet, c'est ça. Toute tarte aux pommes n'est pas nécessairement bonne. Vous avez raison, on oublie de le dire. Mais ce qui est intéressant...
Ça fait très Mao Tse-tung, ça.
Oui, ce qui est intéressant dans cette partie de Québec solidaire, c'est que ce parti veut en quelque sorte réaffirmer ses priorités en cette bientôt sortie de crise. Et on constate que la souveraineté du Québec n'y est pas, alors que ce parti se dit souverainiste. Il n'y a strictement rien dans le document de plusieurs pages sur ce sujet-là. On parle de souveraineté alimentaire, de choses comme ça. Ben, c'est étonnant tout de même d'un parti souverainiste. Il aurait pu y avoir une ligne qui dirait, évidemment, nous pourrions plus facilement gérer dans un Québec souverain en fonction de nos priorités à nous, mais ça n'est pas le cas et c'est assez... En droite ligne avec un sondage que nous avons vu ces derniers jours, Jean-Philippe, qui montrait que près de la moitié des électeurs de Québec solidaire voteraient non dans un référendum sur la souveraineté. Cette statistique-là revient comme le supplice de la goutte pour Québec solidaire constamment dans toutes les études d'opinion depuis pratiquement la fondation de ce parti. Alors, ça dit quelque chose quand même sur la vraie nature de ce parti politique.
En 30 secondes, diriez-vous que Québec solidaire est en train d'opérer une fuite en avant avec ses 50% d'imposition?
Il n'y a pas que ça. Ça, c'est un débat interminable de chiffres. On dit souvent que, surtout en ce moment-là, avec les sommes faramineuses, pharaoniques, les gouvernements ont investi depuis la crise de COVID, puis finalement, on pourrait bien prendre tout l'argent des plus riches pendant...
Attendez, je n'entends pas du tout, là.
Oui, il y a un drôle de retour de ton.
Vous entendez-vous? Vous avez de la tarte aux pommes dans la bouche, là, j'ai l'impression.
Oui, en effet, je ne sais pas, c'est une ligne, je suis désolé.
Ah ben écoutez, Nick Payne,
on va... On est saboté par le fournisseur de téléphone, désolé.
Écoutez, on va arrêter ici, c'est la fin de l'émission. De toute façon, Nick Payne, analyste politique, merci beaucoup. À dans une semaine.
À bientôt, certainement.
Merci beaucoup, Nick. Voilà, on est rendu à la fin de l'émission. Demain, on parlera du génocide des Ouïghours en Chine et d'un nouveau leadership européen après le départ de Angela Merkel, chancelière allemande. À la régie de Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.